Europe 1.
Et nous accueillons sur l'antenne d'Europe 1 Alain qui nous a joint au 01 80 20 39 21. J'en profite pour rappeler le numéro de cette libre antenne qui est cet espace qui attend vos appels, qui vous accueille avec Raphaël qui est aujourd'hui aux manettes du téléphone. Bonsoir Alain.
Bonsoir Monsieur Pérez.
Merci de nous avoir joint Alain.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous nous appelez d'où Alain?
Alors j'appelle de Paris, limite Paris 92. Hein. Voilà, je suis à côté du périphérique, en fait.
D'accord. Vous êtes un habitué de la libre antenne?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est sur les conseils de Valérie que je me permets de vous consulter, parce que j'ai un petit souci, quand même.
Alors, vous
un souci assez important.
Oui.
Alors, je vais récapituler rapidement. Moi, j'ai 70 ans, je suis retraité de l'armée. J'étais un humanitaire. Et c'est vrai que les procédés militaires et les procédés civils en matière médicale ne sont pas tout à fait les mêmes, en fait.
Oui.
Donc, moi, j'ai été marié pendant très très longtemps. J'ai perdu mon épouse en tout début de Covid.
Ah.
Alors ça était déjà après 47 ans de vie commune.
Du Covid, justement? Du Covid, elle est décédée?
Oui, oui.
Ah oui.
C'est-à-dire que au moment où elle est partie de la maison, elle avait énormément mal à la poitrine. Elle est partie en ambulance et donc elle est partie sur Clamart. Après de Clamart, à la Riboisière. Mmh. Et là, à la Riboisière, j'ai pas pu la voir. Je l'ai vue derrière une vitre. On m'a habillé comme un cosmonaute. Mmh. Et ça a été très très compliqué parce qu'elle était salariée de l'Éducation nationale. Donc moi, je suis français, mais j'ai vécu à La Réunion. Donc, elle était réunionnaise et donc on l'a rapatrié son corps, là-bas.
Oh là là.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, entre le moment où elle est partie de chez moi et le moment où on est arrivé à La Réunion, elle n'avait plus ses bijoux sur elle, déjà.
Ah.
Voilà, elle était d'origine hindoue. Donc, c'est une femme qui tenait énormément à ses bijoux, parce que mon beau-père, il était diamantaire. Il faisait la manœuvre entre l'Inde et La Réunion. Et donc, il lui avait fait de nombreux cadeaux de bijoux. Ces bijoux, ils ont disparu.
Bon, ça veut dire qu'en allant à l'hôpital au moment où elle a dû être évidemment transportée, elle est partie avec ses bijoux à l'hôpital?
Oui, oui. J'ai pas eu le temps de les enlever.
Elle les portait sur elle, vous voulez dire?
Oui, tout à fait.
D'accord, ok.
Oui. Il y avait pour beaucoup d'argent. Et ce qui est dramatique aussi, ça, je l'avais oublié de le dire l'autre jour quand je suis passé avec l'émission de Valérie. Elle avait des très grands cheveux, de plus d'1m50. Et lorsqu'elle est arrivée au temple, à Saint-André, à La Réunion, j'ai vu que ses cheveux avaient été coupés.
Et oui, ça doit être. Mais c'est pas les pompes funèbres qui se sont occupées de tout
ça? Je ne sais pas. Mais vous savez que. Quand on était à Paris, nous, dans le nord de la capitale, on a des gens qui ont couru derrière nous. Ils voulaient lui acheter ses cheveux. Ça s'achète. Ça s'achète, les cheveux. Bon, enfin, ça, c'est un détail. Donc, elle est partie. Donc, le 17 janvier, ça fait 3 ans maintenant. Donc, après, moi, je me suis retrouvé pratiquement à la rue, puisqu'on avait un logement social qui était donné par le rectorat. Donc quand je suis rentré de La Réunion, j'y suis resté 3 mois, alors que le loyer était payé, il y avait une porte blindée, j'ai dû quitter l'appartement.
Pourquoi vous l'avez quitté? Parce que
j'ai eu des troubles de la vue, en fait.
Donc, pourquoi excusez-moi Alain,
j'entendais beaucoup moins, et lorsqu'on a fait des examens médicaux, en fait, ils m'ont dit, vous avez peut-être eu un AVC, mais c'est les tout débuts du prémisque, en fait, c'était pas vraiment important. Bon. D'accord, donc on m'a conseillé d'aller voir un ophtalmo, et l'ophtalmo me dit, mais c'est tout à fait normal monsieur, vous avez un début de cataracte. Bah, j'ai dit, moi, écoutez, 67 ans, 68 ans, bah, c'est tout à fait possible, donc on m'opère. Donc là, c'était un hôpital qui est près de l'hôpital du jardin de Luxembourg, qui s'appelle l'Institut Arthur Verne, juste en face de l'école Assas. Donc j'ai fait un œil, comme d'habitude, et 15 jours après, il était prévu de faire un autre. Donc je fais le premier œil, je prends une infirmière, elle me fait des pansements, et je retourne pour prendre rendez-vous, et on me dit, monsieur, vous pouvez pas vous faire opérer, parce qu'il y a le plan blanc, l'hôpital est fermé. Votre anesthésiste et votre ophtalmo, ont été réquisitionnés pour faire les travailler dans les vaccinos gros, vous savez. Et ils manquaient de mains pour faire les vaccins.
Pour les vaccins du
Donc,
Covid.
J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, vous pouvez aller dans un autre hôpital. Donc, je suis allé au 15 juin, ça a été difficile. Ils n'ont pas voulu m'opérer, en fait. Et donc, je suis resté comme ça pendant plus d'un mois et demi, avec des maux de tête terribles. Et quand l'infirmière est venue, elle m'a dit, il y a un problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle m'a dit, il y a des petits morceaux d'implants qui sont restés dans la compresse. Ah bon? Et alors, entre-temps, j'ai oublié de dire, c'est que j'ai été vacciné 3 fois et j'ai attrapé le Covid 2 fois.
D'accord. Voilà.
La deuxième fois, d'ailleurs, ça a failli très très mal se terminer. Moi-même, j'ai failli être hospitalisé. Et le temps a passé. Donc, ma vue a vraiment baissé. Et lorsque le Covid a été terminé, que j'ai pu recommencer au début à aller voir un ophtalmo, donc dans un autre centre, le centre vision, là, ils m'ont dit, monsieur, c'est très très grave, parce que là, je ne voyais plus, en fait. Donc, il m'a dit, là, vous êtes en cécité. Donc, vous allez perdre la vue progressivement. On ne peut plus vous opérer.
Alors, à cause de quoi, Alain?
Je peux déposer plainte. Il m'a dit, mais on vous a fait signer un document. C'est-à-dire, ce fameux document, c'est, vous savez, lorsque... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est-à-dire que vous acceptez s'il y a une erreur.
Alain, vous m'écoutez là?
Oui.
Ah, voilà. Parce que j'avais l'impression que vous m'écoutiez
pas. Non, parce que j'avais de l'écho. Voilà.
Ah, pardon. Non, je voulais savoir, en fait, pour qu'on comprenne bien, vous aviez été opéré une première fois d'un œil, et visiblement, cet œil, l'opération n'a semble-t-il pas pris ou pas réussi, puisque vous nous dites que l'infirmière, lorsqu'elle est revenue vous soigner, elle a retrouvé des débris de l'implant qui vous avait été posé, et vous n'avez pas été opéré du deuxième œil. Et en fait, le fait d'avoir traîné pour l'opération du deuxième œil et le fait que le premier, finalement, l'opération n'ait pas été bien faite, on vous a indiqué que vous alliez probablement perdre la vue.
Donc maintenant, le diagnostic, c'est que je suis en incapacité, en fait, NDPH, mais comme je suis retraité, je ne touche rien. Je suis reconnu à 87%. Donc j'ai 13% de vue.
Ah oui.
Et j'ai signé une décharge. Vous savez, lorsqu'on vous opère, on signe une décharge. Alors moi, je n'arrive pas à savoir, parce que j'ai écrit à plusieurs conseils de l'ordre, quelle est la valeur, vous qui êtes avocat, quelle est la valeur juridique de ce type de document?
Alors, la décharge, c'était pourquoi? Alors, je ne comprends pas très bien. C'était pourquoi cette décharge?
Lorsqu'on signe une décharge, c'est à tout le monde qui fait une opération. C'est une décharge comme quoi le médecin n'est pas responsable de tout ce qui a pu arriver.
Ah. Alors, c'est pas vraiment une décharge, c'est une notice d'information de toutes les conséquences ou des risques que peuvent que vous pourriez supporter à la suite de l'opération, c'est-à-dire qu'il y a toujours des effets, ce qu'on appelle des effets indésirables. Mais ça ne couvre pas une faute ou une erreur médicale ou une faute du médecin, si tant est que la faute ait été puisse être prouvée ou si le geste médical a été mal fait. Donc l'espèce de décharge en réalité qu'on vous fait signer, c'est juste une notice d'information de tous les risques éventuel que pourrait engendrer tel type d'opération et les effets parfois indésirables, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux sur les réactions que peuvent induire une opération. C'est surtout cela. Mais il n'y a aucune difficulté si aujourd'hui vous pouvez rapporter la preuve d'une faute qui aurait été commise donc lors de la première opération, si je vous suis bien.
Alors en plus l'ophtalmo, il n'est plus en place dans cet hôpital.
Alors c'est l'hôpital de toute façon qui est concerné en matière de responsabilité médicale, c'est l'hôpital et c'est l'État, donc c'est une responsabilité. Mais attention, de mémoire, la prescription pour agir est de 4 ans.
On y arrive là bientôt.
Alors ce qu'il faudrait faire, c'est saisir. C'est déjà envoyer une lettre recommandée à l'hôpital, demander votre dossier médical, et puis demander l'instauration d'une expertise médicale. D'accord. Mais ça, il vous faut, quand je dis hélas, c'est pas péjoratif, mais il vous faudrait un avocat. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher peut-être d'une association comme SOS Erreur Médicale ou...
Alors, moi, je
ou association des victimes d'accidents médicaux.
L'association Valentin, vous savez qu'ils s'occupent des personnes malvoyantes.
Oui.
Ils m'ont donné quelques conseils, mais pour l'instant, ça traîne et ça traîne. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un problème pécunier très important, parce que lorsque j'ai signé tous les papiers, l'opération totale devait coûter, c'est-à-dire la totalité, c'est-à-dire les deux yeux, plus le suivi, deux voyages en taxi, et la visite chez l'opticien pour obtenir des lunettes. En tout, la facture s'élevait à 2 300 €. Une partie a été prise en charge par la Sécurité sociale, et j'ai payé le reste, et qui devait être... Parce qu'eux, ils sont pas conventionnés, c'est-à-dire on paye, et après on est remboursé. Et j'ai payé la différence, donc la Sécurité sociale, et moi j'ai refusé de payer la partie, puisque moi j'ai tenu... En fait, ils m'ont dit, vous êtes juge et parti. Mais je ne vais pas payer quelque chose qui n'est pas terminé.
Bah oui, bien sûr.
Donc, et là, maintenant, je suis en procès avec ma mutuelle.
Bon, bah ça, c'est une chose. Mais là, le plus important, c'est pas... Alors, ça voulait dire que la mutuelle ne va pas... De toute façon, la mutuelle, elle n'aurait pas pris en charge votre éventuelle action juridique. Hein. Ce que vous pourriez faire, c'est... Vous savez, il existe dans chaque département une commission de recours amiable pour les accidents médicaux. Et vous pourriez, en fait, il y a un formulaire de saisine de cette commission. On va vous demander un certain nombre de pièces, qui sont les pièces médicales, et que vous allez déposer au secrétariat de cette commission. Alors, vous allez sur servicepublic.fr.
Oui.
Et là, vous pouvez, vous mettez saisir la commission, ça s'appelle la commission CCI, en cas d'accident médical.
D'accord.
Vous mettez donc saisir la commission en cas d'accident médical. Alors, il y a aussi dans le cas des infections nosocomiales, c'est pas le cas.
À la personne qui s'occupe de mes papiers, parce que moi là, on m'a très très fort déconseillé de regarder trop la télé, les ordinateurs,
oui,
etc.
Alors là, de toute façon, c'est juste un formulaire à remplir. Hein.
D'accord.
Vous dites que vous êtes victime d'un accident médical. Et là, il faut agir là assez rapidement. Puis, aujourd'hui, est-ce que votre dommage est consolidé? C'est-à-dire, est-ce que l'on sait que on peut dire que vous avez perdu la vue, donc vous dites à 87%.
J'ai le rapport de l'ANDPH de Nanterre.
D'accord, donc
j'ai
ça.
J'ai le papier, j'ai le dossier.
Très bien. Donc ça veut dire qu'on a,
ils n'ont pas jugé. Excusez-moi, ils n'ont pas jugé que c'était une erreur médicale. Pour eux, ils ont dit vous êtes malvoyant. Votre médecin nous a rempli un dossier. Vous avez le médecin, l'ophtalmo qui a reconnu que il n'a pas écrit. Qu'il y avait une erreur médicale. Il a dit, je ne peux pas l'écrire parce que moi-même, ce n'est pas moi qui vous ai opéré. Je n'ai pas la preuve qu'il y a eu une erreur médicale.
D'accord.
Voilà. Alors... Mais il a bien écrit que c'est suite à un incident divers que j'ai perdu partiellement la vue.
D'accord. Donc, de toute façon, personne peut le dire à part un expert qui sera désigné par la commission. Donc, là, comme on estime que vous avez une consolidation de votre état, c'est-à-dire qu'on sait que votre état s'est arrêté aujourd'hui à une incapacité de 87%, vous allez avec ce formulaire, vous allez saisir la commission, et en plus, l'avantage, c'est que cette saisine va interrompre justement les délais de prescription. C'est-à-dire que ça permettra de bloquer, de figer un peu le dossier, et vous permettra d'aller plus loin pour obtenir d'abord la désignation d'un expert. La démarche est gratuite, hein. Donc vous aurez la désignation d'un expert qui va regarder l'ensemble des éléments, qui va vous examiner et qui va voir si le premier geste médical qui a été fait par le médecin de l'hôpital a été mal fait et s'il y a une responsabilité. Et même s'il y a parfois des actes médicaux sans responsabilité, vous pourriez prétendre quand même à une indemnisation.
D'accord.
C'est la commission qu'on appelle la commission de conciliation et d'indemnisation.
Là, il s'est vraiment arrêté parce que, vous voyez, je pensais avoir une retraite plutôt agréable. Pourquoi pas retourner dans mon île d'adoption, La Réunion. Là, je ne peux pas prendre l'avion. Si je prends un avion, ça bourdonne dans mes oreilles parce qu'il n'y a pas longtemps, là je ne l'ai pas précisé. Là, les auditeurs qui me suivent, Valérie est au courant, Valérie Darbon, il y a 3 semaines, un petit mois, oui, j'ai fait un vertige à la maison. et je suis tombé. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait vraiment un AVC, où j'ai eu un coma vraiment très important. Et donc, vous voyez, ça me perturbe beaucoup, ça, parce que dans ma vie de chaque jour, c'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Vous voyez bien que dans les rues, déjà, les rues de Paris, même avec une canne, je n'ai pas droit à un chien. Dans les rues de Paris, c'est très compliqué.
Vous n'avez pas le droit à un chien ? Pourquoi vous n'avez pas le droit à un chien ?
J'ai fait la demande à Vincennes. Ils m'ont dit non, je ne suis pas assez handicapé.
Mais vous dites que vous avez un handicap de 87%.
Oui, mais il faut être 100%.
Pour avoir un chien ?
Oui.
Et comment vous vous déplacez alors aujourd'hui avec une canne ?
J'ai une canne. Alors là, depuis maintenant, j'avais un téléphone très spécial. Maintenant, j'ai obtenu un deuxième téléphone vocal où je me promène avec un écouteur et un GPS qui me gêne énormément parce que, étant donné que je n'ai plus l'ouïe droite, je ne peux l'écouter que sur l'ouïe gauche. Donc, je n'entends pas les bruits à l'extérieur. Et j'ai failli déjà avoir un problème avec une voiture électrique, avec une trottinette. Donc, j'essaye de me faire accompagner, mais je n'ai droit à rien, aucune aide, parce que ma retraite, voilà, c'est la retraite qui... En fait, je suis reconnu handicapé. Au niveau de la retraite, je ne fais pas partie des handicapés.
C'est-à-dire qu'après, on fait les comptes entre, j'imagine, entre ce que vous touchez au titre de la retraite et ce que vous pourriez toucher au titre du handicap.
Exactement.
Donc, si la retraite est plus importante, évidemment, on ne va pas vous supprimer votre retraite pour vous donner une
exactement. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de faire appel à une auxiliaire de vie, genre les associations agréées, tout est à ma charge. Il y a très, très peu qui est pris en charge par la mutuelle.
Et vous disiez que vous aviez...
une armée qui n'est pas généreuse du tout.
Oui. Vous disiez que vous avez été obligé de déménager. Vous disiez tout à l'heure que...
Oui, tout à fait.
Que l'éducation nationale...
Oui, j'ai dû déménager. Et avec la complexité qu'on a pour remplir un dossier lorsque vous êtes malvoyant, c'est que je me suis retrouvé, heureusement que j'ai une famille, des gens que je connais, et qui ont accepté de m'accepter comme une famille d'accueil, en fait.
Ah, parce que alors vous vivez où aujourd'hui ?
Alors là, je suis dans une famille d'accueil, j'ai une grande pièce à ma disposition, ma propre salle de bain, et je donne une participation aux frais tous les mois.
Comment vous l'avez trouvé, cette famille d'accueil ?
Alors, il y a énormément d'associations. En fait, maintenant, beaucoup de gens ne savent pas. Peut-être vous ne le savez pas.
Non, justement, je vous écoute.
Alors, pour toute personne qui a un appartement assez grand, avec une chambre, peut avoir chez lui, légalement, y compris dans un logement social, un retraité ou une personne handicapée qui est quand même assez mobile.
Oui, qui est autonome, oui.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est une participation aux frais qui se passe entre la locataire ou le propriétaire et moi, éventuellement. Donc, cette dame, elle est vraiment... c'est un couple qui a des enfants, des enseignants. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien. Alors, j'ai fait de nombreuses demandes de logement. C'est impossible. Tout ce qu'on veut faire, c'est m'envoyer vers des instituts spécialisés.
Oui.
Dès que j'arrive, je ne peux pas mentir, parce que, attendez, le jour où je vais voir le bailleur ou l'agence, ils vont bien voir que
bien
j'ai
sûr,
une canne
bien sûr.
Et que je suis malvoyant.
Et là, vous êtes dans une famille d'accueil avec qui vous partagez quand même des moments de
ah oui,
d'échange.
Tout à fait, là, je n'ai pas envie de trop donner l'adresse précise.
Non,
mais bon,
ne donnez pas.
C'est une ville agréable.
Oui.
Il y a un grand parc. Je suis, enfin, pour sans vous donner trop l'âge, je suis sur la coulée verte, en fait, qui
d'accord,
part, vous savez, de Massy,
oui,
et
oui.
qui va jusqu'à la porte d'Orléans.
D'accord, très bien.
Qui traverse le parc de Sceaux. Donc j'arrive avec mon téléphone à bouger. Ils ont des enfants qui sont un peu grands. Oui, je vais au marché.
Et pour faire la cuisine, comment
ça
vous
fait
faites
17 ans que j'habite là.
Pour manger, comment vous faites? Vous avez une cuisine?
Alors, je me débrouille, hein. Non, j'arrive même à les aider un petit peu pour préparer à manger.
Parce que vous partagez les repas avec eux ?
Alors, eux, ils ne sont pas là à midi, ils sont là le soir.
Ouais.
Et le week-end, on essaye de partager quelque chose.
Ouais, c'est bien. D'accord.
Voilà. Mais donc c'est plus agréable, c'est plus familial, plus social que si j'étais dans un genre EHPAD et tout ça. Parce que ma mairie, c'est là qu'ils voudraient me diriger. Et en plus, c'est payant. C'est largement, presque deux fois le montant de ma retraite.
Oui. Donc,
et eux, ils ont dit, mais c'est pas grave, c'est l'État qui va payer la différence.
Très bien, très bien.
Oui, ça m'a choqué, parce que quand je suis sorti de l'armée, le seul travail qu'on m'a proposé de faire, c'est de travailler comme travailleur social. Donc, je connais bien tous les problèmes. Et c'est là, vous voyez, lorsqu'on est assis derrière un bureau, à remplir les dossiers des autres, et lorsqu'on a besoin de dossiers, et là, on voit que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que dans certains endroits, il y a des maisons de famille, des maisons où on vous aide à faire des documents, faire
oui,
des papiers.
Oui, c'est ce qu'on disait, les écrivains publics, d'ailleurs.
Tout à fait,
On a un auditeur qui nous dit qu'il vivait à Perpignan, et qu'ici, il y a des écrivains publics. Et c'est en s'adressant à une assistante sociale et à la maison des droits, eh bien, on peut avoir cette désignation d'un écrivain
public. Dans la ville où je suis, on est en train de tout fermer. Il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus de CAF.
Tout est numérisé maintenant, tout est
oui,
en ligne,
tout à fait.
Hein, c'est ça.
Tout à fait. Donc j'ai acheté ce fameux téléphone qui m'a coûté des yeux de la tête. Et là, ça me fait un petit peu sourire de penser que dans 3 mois, on va avoir 700 000 personnes qui vont participer aux Jeux paralympiques, ou qui vont avoir aussi peut-être ce genre de téléphone. Bah, dans la gare du Nord, Châtelet, etc. Ça ne passe pas. Il m'est impossible de savoir où se trouvent les ascenseurs. À Saint-Michel, c'est pas trop profond. Là, je peux savoir, on me dit aller tout droit, comme dans une rue. Et on me dit aller tout droit, l'ascenseur est en face de vous. Et Châtelet, dès que j'arrive sur le quai de Châtelet, ça y est, les communications ne passent plus.
Vous savez qu'on a, une auditrice qui vient de nous envoyer un message au 739-21. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler à nos auditeurs. Au 739-21, vous pouvez intervenir si vous voulez vous aussi apporter votre témoignage ou votre soutien. Vous faites précéder votre message du mot « nuit » et vous pouvez intervenir comme cette auditrice qui nous dit « ce monsieur ». Donc en parlant de vous, à 87 ans, à 87% pardon, de handicap visuel, et il a tout à fait le droit de posséder un chien guide, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Alain, un chien guide. Je connais des malvoyants qui en possèdent un, il faudrait le demander dans un autre département, et il aura une réponse positive.
Voilà, alors peut-être si j'insiste un peu, oui, mais là il va y avoir un gros souci, c'est que dans les appartements qui sont considérés ici aussi des appartements de fonction, les gros chiens sont interdits.
Ah, d'accord.
Des petits caniches, des chats. Moi, j'ai un chat. Bon, il ne peut pas faire grand-chose pour moi.
Non. Mais remarquez, là, oui, vous nous dites que vous êtes dans une famille d'accueil, donc c'est compliqué d'emmener un chien, peut-être, oui.
Exactement. Même si je suis au rez-de-chaussée, ça va être compliqué parce qu'il y a des jeunes ici qui avaient des gros chiens.
Il faudrait encore déménager alors que c'est pas ce que vous souhaitez aujourd'hui parce que vous êtes bien, ouais.
Ah oui, je suis bien.
Alors, à quoi vous occupez vos journées alors, Alain?
Alors, c'est compliqué. Alors mes journées, moi je suis toujours quelqu'un qui je n'ai jamais quitté le fait de me lever, de me préparer, de m'habiller. Moi je fais pas du tout mon âge, même si j'ai bientôt 71 ans. Donc je pars me promener.
Ouais.
Je rencontre des amis, on prend un café. Et j'aime beaucoup la musique.
Qu'est-ce que vous écoutez musique?
Voilà, j'ai un grand clavier avec deux ordinateurs, une espèce de home studio, je me débrouille. Alors il est tout équipé pour les personnes malvoyantes en fait. Tout est vocal. Je dis par exemple, Google met la piste 3, mais il me met la piste 3, mais la piste 4.
Comme les box
voilà,
Alexa.
Maintenant, on fait des choses incroyables.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai 2 ou 3 titres qui ont été mis sur YouTube, et voilà. Ah, donc, j'ai participé à plein de choses. C'est ma passion, la musique, comme beaucoup de Réunionnais. Et je connais bien la famille de Christophe Maé à La Réunion et de Gérald de Palmas.
Eh ben, on les salue, Alain. On les salue de votre part.
Oui.
Et dites-moi une chose. Et
le papa de Christophe Maé, qui habite dans le sud, pas loin de Toulouse.
Comment il s'appelle le papa de Christophe Maé?
Il s'appelle Jean, normalement. Mais je sais pas, on a toujours appelé Jean. Alors, vous savez, quand j'étais à La Réunion, moi, j'ai assisté à quelque chose de très. Je savais pas du tout à l'époque. C'est le tournage du film de Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo, La sirène du Mississippi.
Ouais.
Et ce film a été tourné à la plantation Maé, la maison familiale du arrière-grand-père de Christophe Maé.
Bravo. Merci pour cette information.
Voilà.
Et dites-moi, comment vous faites pour écouter de la musique ou composer de la musique?
Je dis, Google.
Oui, mais dans votre...
Christophe Maé.
Oui, oui, mais dans la maison, dans l'appartement d'accueil, dans la famille d'accueil où vous êtes, ça ne...
Alors, j'ai une télé. Alors, c'est pareil. Elle est en télécommande, reliée avec une box.
Oui, mais le bruit ne gêne pas les autres occupants de l'appartement.
Ah non, mais l'appartement, il est très très grand, il fait 140 mètres carrés, donc moi je suis à rentrer,
ouais.
Et eux, ils sont tout à fait à l'autre bout. En fait, c'est comme un duplex, en fait.
D'accord, très bien. Ah oui, c'est une chance.
C'est un grand appartement, d'ailleurs, il y a même encore une chambre qui est vide, mais moi, je préfère rester où je suis, dans le salon. Parce que j'ai une grande baie, je suis au rez-de-chaussée, je suis très très bien là avec mon chat.
Vous avez la coulée verte
et
à vos pieds.
Par contre, une complication que l'auditrice peut-être ne se rend pas compte, quand j'étais avec la mère de mes enfants, où je suis resté 47 ans, c'est pas deux jours, donc les deux enfants, j'ai quasiment pas de nouvelles depuis plus de 20 ans.
Pourquoi ?
Ah, vous savez, il y a quelque chose, comme on dit, les histoires d'amour terminent mal, mais les histoires d'héritage aussi.
Mais alors attendez, parce que vos enfants non plus ne donnaient pas de nouvelles à votre épouse ?
En cachette. Parce que moi j'ai découvert qu'il y avait une histoire d'héritage, que mes parents ont donné de l'argent à mes enfants sans me prévenir. Et elle était au courant. Et je l'ai appris malheureusement presque à la fin, il y a très peu de temps.
Et donc vous ne parliez plus à vos enfants à cause de ça ?
Non. Loin, ils sont en Australie.
Ah oui.
Voilà, c'est deux jumelles qui sont mariées avec deux frères.
Des jumelles mariées avec deux frères.
J'ai une situation très très difficile parce que moi, mon ex-épouse était franco-musulmane puisque le papa était hindou, la maman était comorienne. Donc ça s'est très très bien passé.
Vous étiez divorcé de votre épouse qui est décédée ?
Non, pas du tout.
Ah,
non,
comme vous avez dit, ex-épouse, pardon.
Oui, j'aime pas dire le mot veuf, en fait.
D'accord, ok, votre femme.
Je n'aime pas dire, je préfère dire la mère de mes enfants.
Oui.
Et donc, la dernière fois que je les ai vus, j'étais très, très, très choqué. Moi, je respecte toutes les religions. Je serais très, très mal placé d'être raciste parce que moi, j'ai des origines libanaises, italiennes. Moi, j'ai grandi entre deux religions. La mère de mes enfants, elle était donc confession musulmane, même si elle ne pratiquait pas. Et quand je les ai vues la dernière fois, elles étaient voilées.
Ah, vos deux filles étaient voilées,
oui,
d'accord.
Elles sont mariées avec deux musulmans qui travaillent avec l'Indonésie. Mmh. Elles font les élevages de moutons.
Et elles sont venues aux obsèques à l'île de la Réunion de votre femme ?
Oui. Oui.
Et là, vous avez pas essayé de renouer le contact ?
Non. C'était impossible, je n'ai même pas pu les toucher.
Parce qu'elles ne voulaient pas ou parce que vous ne vouliez pas ?
Elles m'ont dit, tu n'es pas converti, tu ne me touches pas.
Ah. Et donc aujourd'hui, elles ne prennent pas vos nouvelles ?
Non.
Elles ne savent pas
et
dans quelles conditions...
Et au moment où j'étais en grande difficulté, parce que ça, je pense que vous n'allez pas me démentir, si la loi est toujours comme ça, parce que les lois changent tellement, normalement, je pense que les parents sont responsables des enfants et les enfants ne peuvent pas abandonner les parents.
Oui, absolument, il est prévu dans le Code civil.
Alors le problème, c'est que l'Australie n'est pas un pays qui a signé des conventions, des accords. Et donc, je ne peux déposer aucune plainte, aucun recours contre l'Australie.
Enfin, contre l'Australie, non, mais vous pourriez engager une action, puisque...
Ça a été jugé non fin de recevoir par le juge.
Pourquoi ? Parce que vous aviez demandé quand même à ce qu'elle soit...
Oui, mais c'est l'assistante sociale qui a vu que j'étais dans grande difficulté, que j'étais presque à la veille d'être à la rue.
D'accord.
Qui a dit, mais vous avez des enfants, il faut essayer de les rechercher. J'ai dit, vous le faites si vous voulez, mais moi je ne le ferai pas.
Et donc aujourd'hui, vous êtes strictement sans nouvelles de vos filles ?
Oui, je suis sans nouvelles, et bon...
Et vous avez des petits...
J'ai tiré un trait.
Vous avez des petits-enfants ?
Alors, je dois en avoir 7, et je ne les ai jamais vus.
Ça fait 20 ans, vous dites, que vous êtes sans relation.
Et vous savez, lorsque je les ai vus aux funérailles de leur maman, elles sont venues d'Australie à La Réunion, et sans venir à Paris. C'est moi qui suis arrivé là-bas. Et tout ce qui les intéresse, tout ce qu'elles veulent parler, c'est parler d'argent. Oui, mais maman, quand elle est partie, elle avait de l'argent. Où est l'argent ?
Oui, mais enfin, l'argent, si vous me dites qu'ils ont déjà touché
non,
l'argent...
Elles sont incroyables,
elles
ces
sont
deux
vénales.
Enfants-là.
Et voilà,
elles ont 47 ans maintenant, on n'a pas de dialogue, c'est impossible. Alors c'est... oui, quand j'étais avec donc la mère de mes enfants, on parlait beaucoup tous les deux. On avait une grande...
complicité, oui.
Ah oui, grande complicité, pour vivre 47 ans.
Alain, la mission, vous savez, touche à sa fin, hélas. J'ai beaucoup apprécié parler avec vous et je voulais juste vous dire qu'on a un message de Catherine sur au 739-21 qui nous dit que les parents de Christophe Maé tenaient une excellente pâtisserie à Carpentras dans le Vaucluse. Voilà, c'est ce que voulait nous dire une de nos auditrices fidèles de la Libre Antenne. J'ai beaucoup apprécié parler avec vous. Merci beaucoup, Alain. On se retrouve, nous, demain, dans la Libre Antenne. Je compte sur vous, je serai là. Et vous pouvez laisser vos appels au 01 80 20 39 21. Merci beaucoup.